Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagiwal Mills. Dagiwal Mills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagiwal Mills.
Alléluia. Père, nous te rendons grâce car tout est possible. Avec toi, nous recevons par la foi pour marcher par cette parole. Et nous te rendons grâce pour les miracles qui se produisent dans notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur le sujet très important de Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Partie 2. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. La partie numéro 2. Amen. Dis à la personne qui est assise à côté de toi, dis-lui que Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un. Amen. Et il faut répondre à la personne et dis-lui, Dieu peut dépendre de moi. Oui, il peut dépendre de moi. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu a besoin de quelqu'un. Et il faut donner la réponse, il peut dépendre de moi. Amen. Et je ressens les grandes doses de prospérité qui viennent sur les gens qui, les gens sur qui Dieu peut dépendre. Je ressens cela se passer au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 50, c'est l'écriture avec laquelle nous allons commencer. Il dit, Dieu te parle comme un enfant qui est de l'âge, qui doit comprendre la raison pour laquelle sa maman a été chassée. Donc il dit, verset 1, « Ainsi dit l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère que j'ai renvoyée ?» C'est seulement les enfants adultes qui comprennent c'est des choses quand il s'agit de divorce. Parce que chaque maman peut être une bonne maman, mais une mauvaise femme ou oui. Donc Dieu nous demande, ainsi dit l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère? Et cette lettre nous montre que Dieu a divorcé une fois. Oui. Et il dit, où est la lettre de divorce? Parce que dans l'Ancien Testament, quand on divorce quelqu'un, on donne un certificat de divorce. Donc, il n'y avait pas seulement le certificat ou bien l'acte de naissance ou bien l'acte de mort, mais il y avait aussi l'acte de divorce. Il y avait des gens qui divorçaient sans un certificat. Donc, la loi de Moïse avait rejeté ça. Si tu divorces quelqu'un, tu dois divorcer la personne correctement. Il dit, où ? Qui est celui de mes créanciers auquel je vous ai vendu ? Donc, maintenant, Dieu se prépare pour vendre quelqu'un pour dire que je n'ai plus besoin de toi. Ce sont les choses sérieuses. Le divorce et puis être vendu comme un esclave. Pourquoi ? La Bible continue de dire, et à cause de vos transgressions, votre mère a été renvoyée. Donc Dieu dit, voici, vous vous êtes vendus par vos iniquités et à cause de vos transgressions, votre mère a été renvoyée. Donc il dit, ce n'est pas parce qu'il voulait divorcer, mais c'est à cause de votre transgression. Et c'est ça qui fait que vous êtes divorcé. Donc, il est en train de parler dans un format mystique. Mais il y a des révélations profondes dedans. Verset 2. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il n'y avait personne de qui je pouvais dépendre? Et il dit, et il n'y a eu personne qui répondit. Comment est-ce que personne n'a répondu à mon appel? Les chrétiens, moi je suis un prédicateur de la parole et je vous dis que Dieu est prêt à divorcer son église si son église ne va pas répondre. Parce que nous sommes l'époux de Christ, l'époux de Dieu. Nous sommes l'époux de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ, l'épouse. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, une femme n'est pas vue comme quelqu'un de valable. Ça veut dire que quand on compte, même on compte les hommes seulement, et on ne comptait pas les femmes. On comptait, on disait, 5000 hommes, en plus des femmes et des enfants. Alléluia. Donc, frères et sœurs, étant une épouse de Dieu ne te fait pas quelqu'un qu'on ne peut pas chasser. Quant à Dieu, être un enfant de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te toucher. Il peut te vendre maintenant. Il va te divorcer maintenant. Tu vas voir que tu seras même étonné toi-même. Donc, mais cela ne va pas se passer dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que Dieu s'est fâché jusqu'à ce qu'il voulait divorcer? Quand on enseigne dans l'école de mariage, on dit souvent qu'il ne faut jamais faire sortir quelques mots comme « je vais te divorcer » lors des querelles ou bien « je vais te laisser, tu vas voir ». Ou bien « quand tu te fâches et puis » Quand tu te fâches à la maison et puis tu veux dire quelque chose, il faut crier les bananes, des ananas. Dis quelque chose d'autre, mais ne mentionne pas le mot divorce. Ou bien il faut dire, bon, cacao, ou bien dis quelque chose. Ne dis pas que je veux te divorcer. Parce que tu es en train d'appeler les choses pour venir, les choses qui ne sont pas dans la maison de venir. Tu appelles ces choses-là de venir dans ta maison. Donc, il faut avoir une liste des paroles, des mots que tu peux utiliser quand tu te fâches. Tu dis manioc ou bien poisson salé. J'espère que vous vous rappelez de ce que je vous dis. Maintenant, à cause de cet enseignement que nous enseignons, comment rester marié, peu importe la situation, c'est ça maintenant qui pousse à beaucoup de personnes de se comporter mal. Parce que pour eux, pour elles, quoi que soit le problème, mon mari ne peut pas me divorcer. Mais l'homme peut voir de la parole de Dieu que Dieu est sur le point de divorcer et de vendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vendre. Vous savez, j'ai regardé un film une fois et je me souviens dans le film, je ne me rappelle pas du thème, le titre, mais il y avait un homme qui était avec son épouse et son épouse avait un enfant. Il y avait aussi, comment on appelle, il y avait la neige à ce temps-là. Et ils sont arrivés à une petite case dans la neige aux États-Unis. L'homme luttait pour prendre soin de l'enfant et son épouse. Donc, arrivé à cette petite case-là, il y avait un homme là-bas qui était seul dans la maison. Seul, un homme. Et cet homme était venu en cherchant de l'or aux États-Unis. Quand il arrivait à la maison dans l'hiver, il y avait la neige. L'homme le plus vieux a regardé le jeune homme et dans le visage aussi de son épouse, il a dit, « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» L'homme a dit, « Je cherche de l'or. » Il dit, « Je viens de l'Angleterre et je lutte ici pour vivre et mon épouse aussi vient d'accoucher. » Et l'homme dans la maison, le vieux, lui, il avait besoin du confort, la consolation, l'amour. Et il a dit, je vais acheter ton épouse. Je vais acheter ton épouse. Et dans le film, ça c'est ce qui s'est passé. L'homme a vendu son épouse. Et l'homme aussi, le vieux, a acheté la femme. Et l'homme a donné au jeune homme beaucoup d'or parce que lui, il avait besoin d'une femme. L'homme avait besoin de l'or. Et la femme pensait à ça, que non, mon mari m'a vendu, ça veut dire qu'il avait vraiment besoin de l'or. Donc, dans le film, ce qui s'est passé, la femme, quand l'homme était revenu, l'enfant était grandi, la femme aussi, et puis ils étaient tous riches. Donc, je voulais dire seulement que tu peux être vendu. Ne pensez jamais que tu ne peux pas être vendu. Tu ne seras jamais vendu au nom de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes très spéciales. C'est pourquoi, en Ésaïe 50, Dieu dit que, pourquoi est-ce que j'ai appelé mais personne n'a répondu? Et il demande, il dit, ma main est-elle devenue trop courte pour que je puisse racheter? Et n'a-t-il pas de force en moi pour délivrer? Voici ma réprimande. Je dessèche la mer. Je fais des rivières un désert et leurs poissons deviennent puants, faute d'eau. Et je révèle les cieux de noisseur. Et verset 4 dit, le Seigneur éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ce qu'on enseigne. Donc Dieu vous dit de vous réveiller pour apprendre. Et pour écouter ce qui se trouve dans ce message, si vous écoutez le Macanet, vous écoutez les prédications que j'ai prêchées dans le passé, parce que Ça fait déjà 50, ça fait déjà 30 ans que je suis devenu pasteur de ce groupe-là. Vous allez constater que je prêche les mêmes choses que je prêche. Mais il y a certaines personnes, selon verset 4, qui n'ont pas pu entendre comme les savants. Donc maintenant, beaucoup de personnes sur qui j'ai prêché maintenant ont l'âge de 50 ans et quelques. Ils ont des maisons dans lesquelles vivre, ils ont des voitures. Moi aussi, j'ai une maison dans laquelle vivre et puis j'ai des enfants par la grâce de Dieu. Mais nous avons tous ce que nous avons commencé à chercher. Mais moi, je continue à servir l'Éternel et beaucoup n'ont pas pu bien entendre. Il dit, il réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Donc, il y a une manière d'écouter. Donc, il faut écouter ce que je prêche. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Ne bloque pas le message. Répétez après moi que Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Me voici, tu peux dépendre de moi. Lors de mon mariage, le parrain de mon mariage devrait parler et il a dit, parce qu'il nous avait entendu prêcher, il a entendu beaucoup de personnes prêcher, il a dit, si ces personnes sont les types de personnes, je me souviens, j'avais 25 ans ou 26 ans. Il a dit, si ce sont les types de personnes qui sont en train de grandir au Ghana, ça veut dire que le Ghana a un avenir. Parce que cette personne ne connaissait pas qu'il y avait une génération qui aimait Dieu, qui était sur le point de commencer des églises. Et ils se sont dit que si ces jeunes personnes vraiment vont faire ce qu'ils sont en train de dire, le pays a un espoir. Donc, je vous dis aujourd'hui que toi, en tant que jeune, si tu fais ce qu'on te dit de faire et tu suis les prédications qu'on prêche ici, tu seras toi-même insurpris, étonnant pour le Ghana et pour le monde et pour toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai dit tu seras un surpris ou une surprise étonnante pour le monde. Si vous allez écouter avec l'oreille de ce qu'on enseigne. Une parole, une oreille de ce qu'on enseigne, c'est une oreille qui ne critique pas, une oreille qui n'analyse pas, une oreille qui suit le flot, une oreille qui croit en tout. C'est l'oreille qui croit que c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui ouvre les portes. Si tu fais ça, je te promets que le Ghana sera choqué dans 40 ans. Si Jésus ne vient pas avant 40 ans, je me demande comment le monde sera dans 40 ans. Bien. Donc, Dieu m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Dieu t'a donné la langue des savants. Écoutez, si quelqu'un peut parler, il s'agit de ce que la personne dit. Il s'agit de ce que la personne a entendu. Aujourd'hui, le Makané se trouve sur le podcast. Tu peux trouver le Makané sur votre portable. Si tu écoutes, vous voyez, quelqu'un qui est sourd ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entendre, il n'écoute, il n'entend rien. C'est pourquoi souvent, être sourd et muet marche ensemble. Être sourd et muet, les deux marchent ensemble. Donc, tu es spirituellement muet quand tu es sourd spirituellement. Si tu ne peux jamais prêcher, tu ne peux jamais convaincre quelqu'un ou bien convaincre les gens. 2 Corinthiens 5, la Bible dit que à cause de cela, nous persuadons les hommes. Nous persuadons les hommes. Nous persuadons les hommes. Nous persuadons les hommes. Amen. Vous voyez, vous n'arrivez pas à persuader les gens. Moi, je n'ai pas de pupitre pour prêcher. Non, tu n'as pas besoin d'un pupitre pour persuader les gens. Persuader. Tu ne persuades pas les gens parce que tu n'entends pas les paroles de persuasion. Regarde à moi, je suis en train de prêcher. Cela a été ma profession depuis l'âge de 25 ans. Et ma profession a été prêcher. Je n'ai jamais été à l'école biblique. Je ne suis même pas entré dans une seule classe pour apprendre comment prêcher. Mon école de prédication a été mon école d'entendre. Tu ne peux pas prêcher parce que tu n'entends pas. Donc si tu écoutes des prédications, si tu écoutes des podcasts, tu vas remarquer que c'est en toi, c'est dans ton cœur. Tu es devenu un prédicateur parce que tu peux persuader les gens, tu peux prêcher aux gens. Cela te change. Savez-vous la raison pour laquelle les gens ne réussissent pas au travail? La plupart du temps, ils sont orgueilleux. La même orgueil que tu montres à l'église. L'orgueil de la stérilité, tu ne fais rien. C'est la même orgueil que tu montres au lieu de travail, dans ton lieu de travail. L'orgueil, c'est Satan. Vous avez des choses en vous. Vous voyez, en Ésaïe, chapitre 14, ici, on peut regarder, il dit, tu as dit dans ton cœur que je me lèverai. Car tu as dit dans ton cœur que je me lèverai. Ça, c'est Lucifer. Lucifer a dit des choses dans son cœur, mais il n'a pas dit ça ouvertement. Il a dit, je vais monter, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand tu as les gens qui ont des choses dans leur cœur, tu vas commencer à ressentir, à voir qu'il y a un type de personne. Il y a des choses dans ton cœur, il y a des choses dans ta tête qui rendent les gens mal à l'aise. Tu as dit dans ton cœur. Personne ne l'avait entendu. C'est pourquoi nous sommes toujours inquiets quand nous voyons les gens qui sont les gens qui sont trop calmes, qui ne parlent pas. Notre question, c'est, il pense à quoi? Il pense de quoi? Pourquoi est-ce qu'il est très calme, il ne parle pas? Et souvent, quand tu leur demandes, il dit que non, je ne veux pas parler. Et il a dit, je me lèverai. Et il dit, je m'assiégerai dans le siège de très haut. Autrement dit, ton patron peut sentir que tu cherches à prendre sa place. Ton patron peut ressentir cela. Donc Dieu est en train de vous amener à l'école de prédicateur. Et l'école, c'est d'entendre. Beaucoup de personnes qui ont été aux écoles pour apprendre comment prêcher, l'école biblique où on enseigne comment prêcher, ils n'arrivent pas à prêcher parce que quand ils commencent à prêcher, les gens commencent à dormir. Vous ne serez même pas à l'église. Donc vous êtes maintenant dans l'école de la persuasion. Dieu est sur le point de vous tourner en tant que jeune personne pour devenir. Dieu vous a donné la langue de quelqu'un qui est instruit. Voici ce que Dieu a fait pour moi quand j'étais à l'école de médecine. Dieu m'a donné une langue avec laquelle je pouvais prêcher et parler. Oui. Peu importe la profession. Je remercie Dieu parce que je fais la profession plus haute dans la science, la médecine. C'est le plus haut. Vous voyez? Dans ce pays, nous avons eu les économistes après les économistes qui viennent détruire la nation. Dieu me rappelle que j'ai fait de la science et que beaucoup de personnes qui sont en train de détruire le pays, là, ils n'ont pas pu avoir la possibilité de faire même la science. Ils ont fait les lettres. La plupart d'entre eux ne savaient pas comment faire l'addition, la multiplication et la soustraction. Ils ne savaient même pas comment faire le DY, DX, la différenciation. Hein? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai, vrai, vrai. Dieu nous donne quelque chose. Amen. Quand on sert Dieu, moi je vois beaucoup de choses et je connais beaucoup de choses. Juste étant quelqu'un qui parle la parole de Dieu, qui annonce la parole de Dieu. Quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, tu vas devenir plus sage parce que tu seras forcé à apprendre des choses. Si tu écoutes seulement, mais si c'est toi qui dois annoncer, tu seras forcé à apprendre. Et quand tu apprends, cela te pousse à apprendre quelque chose au-delà de la personne moyenne et tu seras affecté parce que c'est toi qui es l'annonceur, celui qui annonce la parole. Je vous dis la vérité. Un jour, un de nos pasteurs était arrêté de prêcher à cause de quelques situations. Donc, il avait arrêté de prêcher et il partait à l'église. Donc, un jour, son épouse a appelé. Il a dit, s'il te plaît, mon mari est en train de rétrograder plus depuis qu'il a arrêté de prêcher. Mais avant, je ne comprenais pas. Et puis, maintenant, après, j'ai compris. Le fait que tu prêches là, ça t'aide spirituellement. Donc, il était en train de s'effondrer parce qu'il ne prêchait pas. Oui. Parce que la prédication, quand tu prêches, cela te met sur tes deux pieds. Donc, alors que nous nous préparons pour notre dimanche d'échappement, vous êtes toujours sur vos pieds, mais tu ne peux pas forniquer avec le même gars que tu es en train d'inviter pour venir à l'église. Hey. La combinaison ne marche pas très bien. Tu es forcé de se lever et de déclarer les paroles et tu as l'air de quelqu'un qui est plus saint que plus que tu es même en vérité. Jour après jour, je me rends compte que Dieu m'a appris beaucoup de choses parce que je prêche. Prêcher et être quelqu'un qui persuade, quelqu'un qui persuade, tu vois qu'il y a une grande différence. C'est toi qui bénéficie. Oui. Un jour, j'ai prêché des séries sur... Oui, il s'agissait des dettes. Des dettes, oui. J'ai vu beaucoup de choses dans la Bible et je me suis dit, waouh. Et j'ai vu quelqu'un qui est allé emprunter une hache et puis l'hache est tombée dans l'eau et il dit, et là, c'était emprunté. Il a dit, et là, ce n'est pas pour, avec mon propre argent que j'ai acheté cela. C'était. Il dit, et là, mon maître, l'âge était emprunté. Est-ce que vous êtes là? Maintenant. Numéro un. Vous êtes là. Dieu cherche quelqu'un les travailleurs et les laboureurs, les ouvrières. Les ouvriers. Amen. Matthieu 9. Verset 36 maintenant. La Bible dit, et voyant les foules, Dieu cherche les gens qui vont s'occuper de la multitude. Il fut ému de compassion pour elles parce qu'ils étaient lasses et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc Dieu cherche les gens qui peuvent faire rassembler les brebis. Numéro 2, Dieu cherche les gens qui peuvent rassembler les brebis dispersées à Accra pour les amener à sa maison. Les brebis dispersées, il les a menées. Quel est ton rôle? Quel est ce que tu fais dans ce grand travail? Quel est ton rôle dans cette grande œuvre? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans cette grande œuvre que Dieu est en train de faire? Ou bien tu seras un téléspectateur en train de regarder dimanche après dimanche? Les gens sont éparpillés partout dans leurs chambres, partout. Et Dieu cherche les gens qui savent comment mettre des choses, comment mettre ensemble les choses, les âmes qui ont été dispersées. Certains parmi vous, dans votre chambre, les choses sont dispersées. Si vous allez chercher quelque chose, il faut qu'on rassemble des choses et organiser des choses. Les choses sont éparpillées partout. Chaque personne ici sur cette commission et cette onction, ton rôle, c'est de se lever avec la force. Tu ne peux pas venir dans cette église à main vide. On ne cherche pas de l'argent ici, on cherche des âmes. Vous voyez, il y a des églises qui cherchent de l'argent. Peut-être ils cherchent ton argent. Nous, on ne cherche pas ton argent, on a besoin des âmes. Voici comment on prospère. Amen. Et quand il a vu la multitude, les foules, quand Jésus voit les foules, il est toujours ému. Nous voulons que Jésus nous regarde depuis le ciel. Et quand il regarde toute la ville d'Accra, et quand il nous voit ici à Feslav, il sera ému. Et il a dit, Seigneur, j'arrive. Il va quitter son trône pour venir à Feslav. Il va dire, waouh, hey. Et le père va maintenant tenir sa chemise et puis dire, écoutez, attends d'abord parce que ce n'est pas d'abord ton temps d'aller. Est-ce que tu veux que Jésus soit ému? Dans lui des multitudes. Il aime des multitudes. Il aime des multitudes. Les multitudes. La foule. Je crois que ce dimanche enflé, nous allons commencer à avoir notre dimanche enflé maintenant à la place d'indépendance. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, dimanche enflé. Et il s'agit seulement d'un culte de dimanche. Koshika, Kolishika, Luka, Digadaya. Oui. Dimanche enflé. Dimanche enflé vient où Dieu... Moi, je connais l'économie. Je connais la science économique. La science économique que je connais, c'est que zéro est plus grand que moins 54. Et ce que je connais là, c'est plus puissant que toutes les mots salades qu'ils sont en train d'utiliser au Ghana ici. Depuis toutes ces années-là, avec tout ce qu'ils sont en train de dire là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Parce que c'est le taux d'échange qui révèle l'état du pays. En Zimbabwe, ils ont commencé maintenant, combien? $1 trillion. Amen. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont fait la science économique, là, ils sont en train de parler de beaucoup de choses, l'amortisation et comment on appelle, l'ingénierie financière. Chaque fois que je regarde la société de mines d'Ashanti, je les ai entendus parler de quelque chose et je me suis dit que ces personnes-là, ils vont finir. Et c'est la même chose avec aussi le pétrole. Quand ils commencent à parler, on va faire ça et puis on va faire ça et puis... C'est comme si les êtres humains qui vivent dans ce pays, ils sont moins des êtres humains qui ne comprennent pas ce qui se passe autour de nous. Et maintenant, quand ils commencent à mal gérer les choses, on leur demande, ils commencent à faire sortir des paroles, des choses compliquées. Un jour, j'étais sur le point d'acheter quelque chose d'un Libanais. Et il m'a dit, écoutez, si tu veux acheter la maison, voici l'argent à gauche, voici l'argent à gauche, voici la maison à droite. Et puis, on fait un échange. Si le pays veut vendre du pétrole, il faut que ça soit simple. Voici le pétrole, voici l'argent, on échange. Mais avant de vendre le pétrole, il commence à expliquer que non, les vendeurs ont besoin de ça. Il faut qu'on fait. Aujourd'hui, au Ghana, ici, le prix d'essence est monté. Il y a les coupures de courant. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. L'argent à gauche, le pétrole à droite. On fait un échange. Ne me dis pas que ce que je dis là, ça ne fait pas de sens. Est-ce que tu connais l'anatomie? Est-ce que tu connais la physiothérapie? Est-ce que tu connais comment couper un être humain et puis mettre les choses ensemble? Récemment, le professeur de... notre chef à l'école de médecine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une opération chirurgicale sur le corps de quelqu'un, le cœur de quelqu'un. Ils ont réduit la température du corps à 8 degrés. Et il a pu opérer sur la personne est revenue en vie. Mais vous qui êtes en train de parler des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est vous qui êtes en charge de l'économie et l'économie ne marche pas. Et je me souviens de ce que ce Libanais m'avait dit. Il a dit, l'argent à gauche, et puis la maison à droite, et puis on fait un échange. Même aujourd'hui, moi, si je veux vendre quelque chose, c'est très simple. L'argent ici, et puis la chose ici, et puis on fait un échange. Il n'y a pas d'amortisation, pas ce qu'on appelle sécurisation, de comment on appelle... Il n'y a rien comme ça. Maintenant, il faut des véhicules de raisons spéciaux, les raisons spéciales. Il n'y a pas d'ingénierie. J'ai appris ça de l'Église. Je vous promets, vous allez apprendre beaucoup de choses quand vous décidez de faire le travail de Dieu, vous prêchez. Quand Jésus a vu la multitude... J'ai dit, Jésus sera assis sur son trône le dimanche et quand il voit la multitude, il va avoir cette émotion-là. Il aimera se lever pour aller là-bas. Et le Père va lui dire que, assieds-toi, c'est seulement les gens de First Love qui sont en train de faire quelque chose. Attends d'abord. Hallelujah! Si tu veux savoir ce que bouge le cœur de Jésus, ce n'est pas le rouge à lèvres. Si tu veux savoir ce que déplace, ce que touche Jésus, ce n'est pas ce que tu portes, ce n'est pas tes grosses fesses qui tremblent partout comme des gros foutous. Non! Si tu veux que Jésus se déplace dans ta vie, montre-le la multitude ou les foules. Dieu cherche quelqu'un qui va chercher les gens qui sont dispersés partout pour les amener. Bus après bus, batenta après batenta. Ce dimanche qui vient, personne ne doit agir comme un visiteur. Même si aujourd'hui, c'est ta première fois à l'église. Ici, dans notre église, c'est le premier jour que tu viens à l'église, là, que tu n'es pas un ouvrier. Mais le deuxième dimanche que tu viens ici, tu fais partie des ouvriers de cette maison. Tu ne peux pas être un visiteur pour 2 semaines dans cette église. Et tu ne peux pas être un membre ordinaire après 2 semaines. Non, après 1 semaine, tu n'es plus membre ordinaire. Voici ce qui s'est passé à l'apôtre Paul. Dès qu'il a eu une rencontre avec le Seigneur, il a commencé de prêcher. Est-ce que vous m'écoutez? Tout le monde doit savoir ce que quelqu'un aime. S'il s'agit de Dieu, ce qu'il aime quand il voit les foules. Vous savez quelque chose? Moi, je crois qu'il y a des foules en enfer. Je crois qu'il y a des milliers en enfer. Chacun qui se trouve à l'église a été sauvé par le sang de Jésus-Christ. C'est comme si nous sommes en train de vider l'enfer. Et le ciel est en train de s'élargir. Tu seras au ciel, mais tu ne seras pas au ciel seul. Nous allons entrer au ciel avec des bus remplis des êtres humains. Dis à quelqu'un, Dieu cherche quelqu'un qui peut faire rassembler la multitude. Amen. Numéro 2 ou numéro 3? Numéro 3. Dieu cherche quelqu'un qui sera un berger. Zacharie 10. Quelqu'un qui sera un berger aux brebis troublées. Quelqu'un qui sera un berger. Zacharie chapitre 10 verset 1. Demandez à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il donnera des ondées de pluie à chacun de l'herbe de son champ. Amen. Qui veut l'exaucement de sa prière à 100%? Alors, il faut demander à la bonne chose au bon moment. Si maintenant, nous sommes ici et puis tu me demandes de te donner l'omelette, comment est-ce que je peux te donner l'omelette? Moi, je tiens le microphone en main. Comment est-ce que je peux te donner l'omelette? Ce que tu me demandes, ce n'est pas parce que je ne peux pas faire, mais si tu me demandes de te donner l'omelette au bon moment, je peux te faire parce que moi, je fais l'omelette très bien. C'est quelque chose que je peux faire très bien. L'omelette que je fais là, ce n'est pas l'omelette que les Ghana Girls là font. Les omelettes qu'on tape, on tape jusqu'à ce que ça devienne plate comme ça. Non? Oui, oui, oui. Si je fais un petit déjeuner pour toi, tu vas me demander si je suis un chef professionnel. Mais pas à ce moment-là. Maintenant, je suis en train de prêcher. Donc, tes prières pour demander l'omelette ne peuvent pas marcher. Il a dit, demande à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie. Il y a certaines choses que Dieu va répondre. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire certaines choses. Ce n'est pas le temps pour ça. Demande à Dieu de te faire quelqu'un qui est fructueux. Demande à Dieu de te donner l'onction. Demande à Dieu de donner quelqu'un qui porte du fruit. Tu vas voir que Dieu va te répondre plus vite que de demander de l'argent, de la voiture. Il faut demander aux choses que Dieu peut répondre maintenant. Il y a les réalités des choses que Dieu peut répondre maintenant. C'est vrai. Maintenant, je suis ici en train de prêcher. Si tu me demandes du pain, je peux te donner, mais je ne peux pas arrêter maintenant pour te donner du pain. Mais il faut attendre un peu après quelques saisons. Écoutez, si tu veux demander du pain, si je ne prêche pas, je peux te donner du pain pour remplir même le coffre de ta voiture. Mais à ce point-là, il faut demander ce que je peux répondre facilement. Maintenant, alors que je suis en train de prêcher, si tu me dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter la référence de l'écriture? Ça, c'est C'est facile. Je peux dire que, oh, c'est Zacharie chapitre 10, verset 1, demander à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. J'ai répondu à ta requête parce que c'est la prière de la saison. Ça, c'est la saison d'être loin. C'est la saison de demander à l'Éternel de t'aider à prêcher, de t'aider à se donner entièrement à lui. La dernière fois, j'ai prié à l'Éternel pour l'esprit d'humilité. Je lui ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me renier. Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai jamais parlé avec l'Éternel comme ça. Je lui ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me nier comme ça parce que même si tu ne me donnes pas les autres choses, mais ça, tu es obligé de me donner. Il faut prier pour l'esprit de humilité. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux même pas dire attends. Parce que je t'ai demandé de cela. Quelque chose de très important. À travers l'humilité, tu peux entrer dans les portes. La Bible dit que, à moins qu'on devienne noble comme un enfant, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans certains endroits dans le royaume, tu dois être humble. Donc, au lieu de demander les choses qui sont grandes, demande pour l'humilité. Et tu vas voir que tu peux entrer dans beaucoup d'endroits. Nous n'arrivons pas à voir les réponses de certaines prières parce que nous ne demandons pas aux bonnes choses au bon moment. Donc, mon ami, je vous dis, demande l'Éternel de la pluie au temps de la pluie. Verset 2. Car les téraphimes ont dit des paroles de vanité et les devins ont vu un mensonge et prononcé des songes trompeurs. Ils consolent en vain. Vous voyez? Ils consolent en vain. Ce sont les gens qui consolent, mais ils consolent en vain. C'est pourquoi ils sont partis comme le menu bétail et ils sont opprimés. Parce qu'il n'y a point de berger. Les gens sont vraiment troublés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de berger. Il n'y a point de berger. Les gens sont troublés dans la vie. Oui, tout le monde qui est ici, personne n'a été payé d'être ici. Vous, c'est vous même qui allez donner les offrandes. Une fois, on a eu un culte de miracle du Vendredi Saint et il y avait les membres de la Sécurité nationale qui étaient venus et ils ont demandé combien est-ce que tu payes aux gens qui sont venus ici. Et on a dit que non, on ne paye rien. Parce que eux, quand ils sont venus faire leur campagne des partis politiques, on paye des gens pour venir. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont besoin de l'Éternel. Et les gens aussi ont besoin de toi. Les problèmes. Combien de jeunes personnes ont eu des problèmes déjà? Vous avez eu quel problème? Qui est prêt de raconter un de ces problèmes? Mais vous étiez sur le point de lever vos mains. Maintenant, vous vous êtes en train de rabaisser vos mains. Vous voulez que je vienne à ce côté-là? Vous avez eu quel problème? Il faut venir. Tu as eu quel problème en tant qu'un jeune homme qui danse à l'église? Un jour, j'étais à la maison de quelqu'un en train d'appeler quelqu'un. Et puis ma soeur m'a frappé et puis il a saisi mon portable pour 2 semaines. Oui, ils ont saisi son portable pour 2 semaines et on l'a frappé aussi. Tu appelais qui à 22 heures là? Il faut aller t'asseoir, il faut aller t'asseoir. Des problèmes. Moi, j'avais l'habitude d'aller voir les filles et aussi j'ai eu des problèmes avec la masturbation et aussi de fumer. Beaucoup de fois, j'étais aussi dans la pornographie. Mais est-ce que vous avez aimé ça, n'est-ce pas? Parce que j'ai essayé d'arrêter, mais je n'arrivais pas d'arrêter. Oui, j'aimais ça, mais c'était un grand problème. Parce que je partais au site, le site web, vous voyez, et les choses, les sites où je visitais, normalement, si tu n'es pas quelqu'un qui entre en profondeur des choses comme ça, tu ne peux pas savoir. Tu as eu quel problème? Les jeunes. Vous voyez, maintenant, vous êtes en train de faire cacher vos problèmes. Personne ne connaît le problème que j'ai vu. Mais quand je regarde vos visages, je vois des problèmes. Qui ici a eu des problèmes? Ok, je ne veux pas vous appeler. Qui a eu des problèmes dans sa vie? Regarde partout pour des problèmes. Personne ne veut partager ses problèmes. On allait penser que vos problèmes commencent après l'âge de 30 ans. Mais voyez, vous n'avez même pas arrivé quelque part. Mais les problèmes ont déjà commencé. Et cette section, si vous élevez vos mains, je vais vous appeler. Toi, tu as eu des problèmes? Tu as eu quel problème? Il y avait un jour, mon papa s'est fâché contre moi parce que il croyait que j'avais dit à mon papa, ma maman quelque chose. Et ma maman aussi s'est fâchée contre moi parce que elle me soupçonnait que j'avais dit quelque chose à mon papa. Et j'étais attrapé au milieu de deux problèmes. Il y avait problème à gauche, problème à droite. Et les deux, ce sont les deux qui prennent soin de moi. Donc maintenant, j'étais perdu parce que si je pars vers ma maman, elle me soupçonne que j'ai dit à mon papa quelque chose. Si je pars vers mon papa me soupçonnait que j'avais dit quelque chose à ma maman. Donc comment est-ce que tu as vaincu ce problème-là? C'est un problème. Les gens viennent pour... Ils commencent à parler de leurs parents et puis ils commencent à pleurer. Qui a pleuré de... Et son père ou sa maman une fois dans la vie. Ce sont des problèmes, des troubles. Tu vois les problèmes. Qui est entré à la maison et puis soudainement il a eu peur parce qu'il y avait des tensions à la maison. Lève-toi si tu avais peur. Oui, lève-toi. Oui, il faut venir, toi. Peur parce que mon papa, ma maman et avec mon beau-père, ils ne se parlaient plus. Et si quelqu'un entre dans la maison, il demande qui est là. Et toi-même là, tu ressens la tension, mais tu ne peux rien dire. Qui a été peur à la maison? Je ne vais pas t'appeler si tu élèves ta main. Vous tous ici, de la tension et de trouble. Il y a des troubles, des problèmes personnels. Qui a eu des troubles financiers? À votre âge? Sérieusement? Qui ici a eu des problèmes financiers? Des problèmes financiers? Comment est-ce que votre problème financier vous a influencer en tant qu'un jeune homme parce que vous ne payez pas de... Moi, de papa, des fois, il faut qu'on mette les gens dans les bus. D'ici là, je parle des problèmes personnels. Des fois, il faut acheter des livres. Tu pars à maman, maman te dit qu'elle n'a pas de l'argent. Et tu ne sais pas quoi faire. Il y a quelqu'un d'autre, les problèmes financiers. Quand j'étais à l'école, il y avait un temps où je n'avais pas de l'argent. Mon papa, j'appelais ma maman, elle avait dit qu'elle n'avait pas d'argent, donc je pleurais. J'appelais mon oncle, j'ai dit que je n'avais pas d'argent, ma maman ne voulait même pas me donner de l'argent. Et mon oncle m'avait dit que de ne pas s'inquiéter, il va m'envoyer de l'argent. Et après, il m'a envoyé de l'argent. Mais je devrais maintenant lutter, appeler ma maman plusieurs fois. Et je ne savais pas où aller, j'ai appelé mon oncle pour intervenir. Mais j'ai lutté parce que je n'avais pas de nourriture. J'étais à l'université, pas de nourriture. Et puis là maintenant, un vieux avec un gros ventre va venir, qui a de l'argent, il va dire qu'il va prendre soin de toi, mais il va coucher avec toi. Tu vas aller seulement faire massage de son gros ventre pour avoir quelques sidis. Vous savez, L'Éternel a besoin de quelqu'un qui sera un berger. Parce que Zacharie chapitre 10, verset 2 dit qu'il y a des brebis qui sont en problème. Parce qu'il dit que les menus bétail, ils sont opprimés parce qu'il n'y a point de berger. Et vous voyez, tous ces problèmes que les enfants sont en train de raconter, ils ne racontent pas ça très bien. Parce que vous êtes en train d'apprendre comment cacher des choses. Parce que ça sera sur podcast, quelqu'un va dire, et la personne va aller dire à ta maman que voici ce que tu as dit à l'église, qu'il y avait un problème à la maison, et puis... Waouh! Maintenant, comment est-ce que l'église peut aider à résoudre ces problèmes-là? Sicho, comment? Moi, j'ai appris d'oublier les problèmes de mes parents pour venir à l'église parce qu'ils devraient aller au tribunal. Et l'église m'avait aidé parce que je n'aimais pas mon père, mais j'ai appris d'aimer mon papa parce que peu importe ce qui se passe, je savais que je devrais aimer mon père. Écoutez, et je me suis dit que quand j'étais venu à l'église, je luttais, des fois ça ne marchait pas, des fois mon papa disait des choses, je quittais sa présence. Mais petit à petit maintenant, j'ai une bonne relation avec mon papa à travers l'église. Pas toi, mais qui ? Toi, ok. Et moi aussi, je peux dire que l'année passée, ma maman a voyagé et elle m'a laissé de faire son travail pour lui. Toi, un petit garçon comme toi. Donc, à cause de ce travail, c'était comme un contrat et elle m'avait donné l'argent pour gérer. Et il y avait un autre travail, donc j'ai tout utilisé l'argent pour gagner les contrats. Mais comment est-ce que cela t'a aidé? Parce que le jour quand j'étais en problème, je me suis souvenu que j'ai dit à l'Éternel que je suis son serviteur. Donc j'ai besoin de l'argent, sinon je ne peux pas continuer à faire le travail. Et j'étais sérieux, parce que jusqu'à ce que j'ai fini la prière, dans 10 minutes, deux personnes m'ont appelé pour un travail et puis ils ont donné l'argent. Les serviteurs, le serviteur de l'Éternel. Amen. Quand tu grandis, tu auras encore des autres problèmes. Vous aurez quel problème? Les plus âgés? Ah, les gens de Greta Love, ils sont là en train de me regarder. Qui va chercher quelqu'un qui est troublé et pour aider la personne? Ne pensez jamais que vous avez de problèmes. Peut-être vos problèmes sont petits comparant cela aux problèmes des autres. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je ne vous entends pas. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Magnifique. Numéro 4. Dieu cherche quelqu'un qui va relever les vierges tombées. Amos 5:1. Il dit, écoutez cette parole, une complainte que j'élève sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se lèvera pas. La Vierge d'Israël, elle est étendue sur sa terre. Et il n'y a personne qui la relève. Aïe! La Vierge est tombée et il n'y a personne. Certains parmi vous, vous êtes venus à l'université comme des vierges. Quand vous étiez venus, vous étiez des vierges. Mais maintenant, vous êtes des tueurs en série. Que Dieu nous épargne, loin de cela. Vous êtes des faiseurs de... La Vierge est tombée. L'une des personnes qu'on peut atteindre, c'est les vierges tombées. Parce que quand une vierge tombe, son cœur est perturbé. Donc c'est un moment où on peut étendre la main pour dire que Jésus t'aime. Elle va dire, hein? Mais Pierre m'avait dit qu'il m'aimait, mais... Et tu dis à la personne que tu ne veux pas donner ton cœur au garçon comme Kobe G. Les vierges tombées déchues. Et il dit, il n'y a personne de la relever. Il n'y a personne qui peut dire que, hé, ma soeur, lève-toi, on peut aller à l'église. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu va t'utiliser. Tu vas devenir une vierge spirituelle. Oh, tu vas devenir une vierge. Il y a d'autres histoires à raconter à une vierge tombée. La Bible dit que la vierge est tombée et il n'y a personne qui la relève. Dieu t'envoie aux vierges tombées, pas pour aller rendre les situations pires, mais pour les relever. Hein? Et est-ce que vous allez rendre les choses pires ou bien vous allez relever les vierges? Et voici la raison pour laquelle maintenant nous avons besoin des dames bergères. Là, quand une vierge tombe et puis toi tu entres dans la situation, tu vas voir que la dame ne veut pas te diriger à tomber. Parce que des fois, quand une vierge est tombée comme ça, et puis un garçon berger part pour aller consoler, et puis elle fait, tu la consoles, avant que tu te réalises, tu es par terre avec la vierge. Je dis que Dieu vous épargne cela au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous utiliser tous au nom de Jésus-Christ. Je vous vois en train d'aller à Pentagone, à New York City, à UPSA, à Legon Hall, Wisconsin, à Chelsea, Webster, Valley View, Medina, Legon de l'Est, Miocho, en train de chercher les vierges tombées. Les vierges tombées, elles sont dans leur chambre en train de pleurer. Et quand tu rentres dans sa chambre, tu vas voir que son oreiller même est mou des larmes qui coulent de ses yeux. Vous voyez, une des choses qui m'avait inspiré quand je sortais pour faire le travail de Dieu, c'est parce que j'ai eu une vision d'un homme qui était assis dans sa maison. La maison était jolie, une maison vitrée, très vitrée et correcte, jolie, belle. Et il était seul en train de boire du cigare, il était en train de fumer du cigare et puis il buvait aussi de l'alcool. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme-là, il t'attend. Et j'ai dit, moi. Et il m'a dit que cet homme-là, il t'attend. Quand tu vas aller chez lui, il sera sauvé. Il y a une fille qui n'est pas allée à l'église aujourd'hui. Elle est là dans sa chambre qui t'attend. Elle est déçue. Elle est broke. Mais c'est toi qui vas restaurer cette femme, cette sœur-là. Parce qu'elle attendait à te voir. Parce que quand tu seras là, elle va voir une différence dans ta vie. Est-ce que vous écoutez? Dis à quelqu'un que je vais aller les poursuivre. Je vais aller les tous chercher. Je vais faire l'œuvre de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 5. Dieu cherche quelqu'un qui va sauver et délivrer les gens que l'ennemi est en train de dévorer. Le diable est sur le point de dévorer. Le diable veut les utiliser comme un déjeuner, comme son dîner. Ézéchiel 34, 5. La Bible dit, et elles ont été dispersées parce que il n'y avait pas de pasteur et elles étaient la pâture de toutes les bêtes des champs et elles ont été dispersées. Et quand on dit que le diable est en train de les dévorer, il est en train de dévorer leur argent, dévorer leur sexualité, dévorer leur pureté, dévorer leur avenir, dévorer votre éducation. Il dévore tout ce que s'agit de ta décence et c'est toi qui vas aller là-bas pour dire « Hey, 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 hey !» Et le diable va laisser l'âme et il va fuir parce que toi, tu es allé pour sauver un bus plein des êtres humains. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons des sauveurs des hommes. Des sauveurs des hommes. Le diable veut tout manger de ta vie. Tu allais avoir des amis. Il allait manger tes bien-aimés. Manger ton mariage. Avant qu'il ne finisse pas avec toi, tu ne peux pas marier parce qu'il va manger et bouffer ta personnalité. C'est ça, la personnalité que Dieu t'a donnée pour pouvoir avoir un partenaire. Il a déjà bouffé ça. Il a pris ton âme. Tu ne sais même pas comment relater avec les gens. Le diable a mangé tout. Tu es devenu comme de la viande. Il a mangé et bouffé ta vraie vie. Il a pris de toi tout ce qui est normal dans ta vie. Tu regardes la pornographie où 1, 2, 3, 4, 7 hommes sont en train de faire le sexe avec une seule femme. Et dans la vraie vie, cette chose ne marche pas. Et voici ce que tu as appris. Maintenant, tu n'es plus normal. Tu te masturbes 7 fois par jour. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est devenu anormal. Le diable t'a bouffé maintenant. Tu ne peux même pas rester avec une seule femme. Parce qu'une fois que tu entres dans une chambre avec une femme, tu vas commencer à forniquer avec elle maintenant. Tu ne sais même pas comment rester avec une seule femme. Il a mangé, il a dévoré. Tu es devenu comme un mouton dans la bouche d'un lion. As-tu vu une fois un lion en train de bouffer un buffle? J'ai regardé un film où un buffle était en train d'aller boire de l'eau et puis il était maintenant, il était attrapé dans la boue. Les lions sont venus et ils ont commencé à bouffer le buffle par derrière. La Bible dit que ton ennemi, il rôde comme un lion. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Il veut dévorer tes finances. Il va te mettre dans les choses que tu ne peux pas, de quoi tu ne peux pas sortir. Il va bouffer ta jeunesse. Il va bouffer ton zèle. Mais Dieu t'envoie pour aller aider les bonnes personnes qui sont dans la main de l'ennemi. Et ces personnes, un jour, ils vont t'aimer dans une manière. Les gens vont demander, mais cette personne-là, pourquoi est-ce qu'il t'aime comme ça? Est-ce qu'il est Dieu? Parce qu'ils vont te demander, mais comment est-ce que tu aimes quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il est Dieu? Mais toi-même, tu sais dans ta vie que si ce n'est pas cet homme-là qui était venu dans ta vie, tu serais déjà mort. Quand je regarde dans ma vie aujourd'hui et je regarde une femme dans ma vie qui s'appelle Betty. Je rends grâce à Dieu parce que c'est elle qui... Je me souviens, quand j'étais jeune, il m'a dit, viens, on va aller à l'église. Elle m'a amené à Action Chapel. C'était un samedi, après-midi. C'est là où j'ai vu l'archevêque pour la première fois. Et à ce point-là, il était appelé le frère Nick. Il portait des chaussures blanches. Il faisait partie même de la chorale. Il chantait en même temps pour prêcher. Et puis, il bougeait de gauche et à droite avec 3 autres. Le frère Nick, et il prêchait. Toute l'église, c'était fait de fauteuils parce que l'église n'était pas grande. Et après, cette même dame m'a amené à une veillée de prière. Et après, elle m'a amené à Calvary Road. Quand je regarde derrière moi, Dieu envoie quelqu'un pour t'aider. Et Dieu est en train de t'envoyer pour aussi aider la vie de quelqu'un d'autre. Le diable m'a cherché depuis longtemps. Les pensées qui avaient commencé à développer dans ma tête, si je n'étais pas sauvé à ce temps-là, j'allais être un athée. Parce que chaque fois que je passais à côté des chrétiens, j'avais des pensées. Je me suis demandé, mais comment est-ce que les gens peuvent aller s'asseoir comme ça avec les Bibles? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc Satan m'avait déjà ciblé. Mais Dieu a envoyé quelqu'un. Est-ce que cette personne ne sera pas précieuse pour moi? Elle est si précieuse pour moi, elle sera toujours précieuse. Le 31 décembre, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre? Elle m'a dit, on part à l'église. J'ai dit, église, 31 décembre, comment est-ce qu'on peut aller à l'église le 31 décembre? Vous voyez? Les filles, écoutez, vous pouvez être fortes pour être des bergers. Elle m'a pris 31 décembre. Elle a dit, je vais t'attendre ici, tu vas venir. J'ai dit, où? Elle m'a montré le centre des arts. Et j'ai dit, vraiment? Elle dit, ok. Ma maman m'a demandé, tu pars où? Tu pars où? C'est étrange, c'est dangereux. Parce qu'il y avait un coup d'état ce jour-là même, le 31. Mais je suis allé. Et quand j'étais assis, je dormais parce que je n'ai jamais assisté à une veillée. Mais quand je me suis levé, j'ai constaté qu'il y avait un changement dans ma vie. Je peux parler d'un changement dans ma vie lors de la veillée, bien que je suis allé dormir. Et c'est une fille qui m'a amené là-bas. Et le diable m'attendait pour me faire un athée. Vous allez me voir et insulter les gens. Hey! Satan était sur le point de manger ma vie. Mais par l'intervention d'une seule personne. Et me voici ici aujourd'hui. En train de parler. Quand je vois les gens, ils me sont très valables, de valeur. Quand j'étais à l'école, j'étais maigre. J'étais petit, j'avais maigri comme des squelettes. Mais mes culottes étaient comme des jupes. Et chaque fois que je marchais, je passais par un groupe de filles. Je les attendais rire, mais je ne savais pas pourquoi elles rièrent. Mais c'est après que je me suis rendu compte qu'elles riaient de moi, qui a eu ce sentiment une fois dans sa vie. Quand je marchais, je passais par les filles. L'uniforme de l'école que je portais, c'était comme une jupe. Hey! C'était à ce temps-là que cette sœur, elle prenait soin de moi. C'est à ce temps-là qu'elle est venue dans ma vie. Les autres se moquaient de moi. Elle me disait, on part ici, on part là. Elle dit, tu n'as pas de Bible, allons, on va acheter de Bible, de la Bible. Allons, on va acheter de la Bible. Je me souviens, j'étais à côté d'une table. Il y avait le centre des arts. Il y avait une Bible américaine. Elle a dit, il faut acheter ça. C'était petite marron, Nouveau Testament. Il dit, il faut acheter ça, c'est bon pour toi. C'est là-bas où j'ai appris 1 Corinthiens 13. J'ai appris 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Oui, une seule personne. Et vous, et toi, tu es là, tu es calme. Au lieu de parler, c'est un fille ici, vous êtes forte. Les filles sont fortes. Elles sont fortes. Et je crois que Dieu est en train de créer les femmes colériques plus que les femmes phlegmatiques dans ces derniers jours-là. Peut-être c'est pour le travail d'un berger. Peut-être. La plupart des filles sont fortes avec des personnalités fortes. Si tu te maries à ces filles-là, puis elles ne suivent pas la parole, ça ne serait pas facile pour toi. Elle serait une bonne berger, mais pas une bonne épouse. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. La Bible dit qu'ils étaient dispersés, ils sont devenus comme de la viande pour l'ennemi. L'ennemi est en train de les dévorer. Un jeune homme comme toi, à ton âge, tu pars pour chercher des prostituées? Oui. Un jeune homme, tu pars chercher une prostituée qui est comme ta maman et tu es comme sa maman et tu payes. Tu as payé 20 cédis. Un petit garçon comme toi avec une grosse maman comme ça. Hey! Satan t'a réduit à rien. Aujourd'hui, je te dis que Dieu te oint, Dieu t'appelle et Dieu te lève. Dieu m'a envoyé pour être un général, pour vous mobiliser comme une armée, pour dire que allons-y, il ne faut pas qu'on se donne à de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes, mais donnons-nous comme une armée pour l'Éternel. Oui, vous serez content de cela. Vous serez content de cela. Hey. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit la première fois que je suis allé à une réunion de prière? Quand je suis allé, j'ai entendu les gens prier. Shakalaba, shakalaba, shakalaba. Shukalaba, oku, shakadebe. Shukolobo, shakabalakia. J'ai commencé à rire. J'ai rié. J'ai rié sans contrôle. Parce que je n'avais jamais entendu les gens prier. Parce que tout ce que je connaissais de la prière, c'est on ferme les yeux, tout est silencieux. C'est pourquoi je remercie Dieu que je suis sauvé. Parce que si je n'étais pas sauvé, ça allait être une histoire différente. Qui ici est courant, qui ici est d'accord avec moi que si tu n'étais pas sauvé, ça allait être pire. Je riais sans contrôle parce que je ne pouvais même pas rester dans la salle. Et je suis sorti de la salle et je riais. Et immédiatement, j'ai eu peur. Et j'ai dit, hé, est-ce que tu te moques? Tu te moques au Saint-Esprit? Chier! J'avais peur pour 2 semaines. Dieu merci. Une jeune personne peut devenir un grand berger. Je te vois devenir un leader de Bassenta ou Bassonta plus loin au nom de Jésus dans cette église. De vendredi jusqu'au dimanche, il n'y aura pas de repos. Oui, de ce vendredi, oui, nous allons fouiller toute la ville d'Accra. Nous sommes en train de nous préparer pour utiliser la place d'Indépendance bientôt. Qui croit que c'est une bonne idée? Vous serez content d'aller là-bas? Pourquoi pas? Dieu cherche des multitudes. Alléluia. C'est magnifique. Moi, je suis content. Est-ce que vous êtes content? Amen. Dieu cherche quelqu'un qui peut montrer de la compassion aux gens qui sont rejetés. Les gens qui ont eu le rejet. Ézéchiel 16, verset 1. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, fais connaître. Et ainsi dit l'Éternel, verset 3, à Jérusalem, ton origine et ta naissance sont du pays cananéen, ton père était un amorien et ta mère une Éthienne. Verset 5. Aucun œil n'eut eu pitié de toi pour te faire une seule de ces choses, pour avoir compassion de toi. mais tu fus jeté sur la face des champs. Et à cause de l'horaire qu'on avait de toi, le jour que tu naquis, et je passais trop de toi, et je te vis gisante dans ton sang. Et je te dis dans ton sang, vis, je te dis dans ton sang, vis, je t'ai multiplié comme le germe. Tu étais comme un or, hors loi. Il souffre comme Bob Marley. Il était comme un hors loi. Il a grandi sans un père. Son papa était un blanc. Il y a un ange. Il a rencontré un rastafarien qui était plus âgé que lui. Et ce rastafarien l'avait pris. Et c'est ce rastafarien qui avait commencé à parler avec lui, ce rastafarien a commencé à être son berger. Hey. Et voyez, quand quelqu'un n'a pas de père, ou mais quand quelqu'un n'a pas de mère, ou mais quand quelqu'un n'a pas de papa, quelqu'un qui est comme un père dans sa vie. Ézéchiel chapitre 16, 5 dit, tu étais jeté sur la face des champs. Personne ne te voulait. Personne ne te voulait. On t'avait jeté. Faut partir d'ici. Inutile, on n'a pas besoin de toi ici. Et à ce point-là, quiconque vient vers toi, premièrement, qui te montre de l'amour, si la personne est un politicien ou bien un rastaman, tu vas embrasser ça. Parce que c'est quelque chose maintenant qui t'accepte quand tout le monde t'a rejeté. Par ta famille, par ton peuple. Moi, j'étais rejeté. À ce temps, quand la sœur Betty était venue me chercher, j'étais un rejet de l'école. On me maltraitait, on me punissait. Et elle était venue. On part où on est accepté. L'une des choses dont je me souviens, c'est que j'ai senti l'acceptance. On m'a accepté. Pour 4 ans, quand j'étais à l'école, on ne m'acceptait pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas acceptées. Ils sont du nord, ceux de l'ouest, ceux de d'autres pays. Ils sont là, seuls, en train de croire et prier que quelqu'un va venir les aider. Quelqu'un va venir frapper à la porte. Quelqu'un va venir dire que non, peu importe, vous venez, on va aller à l'église. Voici le moment. Tu ne peux pas être enceinte tout le temps. Il y a un moment, il y a un temps que tu peux être enceinte. Après ça, tu ne peux pas être enceinte. Quand quelqu'un est rejeté, c'est le temps convenient. C'est le temps que la personne est en train de montrer, un temps qu'il a besoin de quelqu'un pour venir mettre une semence en lui ou en elle. La plupart d'entre vous qui sont âgés, si vous allez prendre certains jeunes ici dans cette église. Récemment, je faisais des conseils des enfants et j'ai vu une petite fille. Elle s'appelait quelque chose Osei. Tu te souviens d'elle? Oui. Et j'ai dit, tu me rappelles de le docteur Noche. Donc j'ai appelé le docteur Noche, j'ai dit, il y a une jeune fille ici qui me rappelle de toi. Prends soin d'elle, paye ses frais de scolarité parce qu'elle a ton nom. Quelle bénédiction. Oui, oui, quelle bénédiction. Je l'ai appelée, j'ai dit, prends soin de cette petite fille-là. Elle a ton nom. Oui. Tu étais chassé, personne ne te voulait. Personne ne voulait entendre ton histoire. Personne ne m'a choisi. Personne ne m'a aimé trop. Mais toi, tu m'as aimé. Quand j'entends cette chanson, je veux pleurer. Personne ne m'a aimé. Personne ne m'a choisi. Mais toi, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Oui. Et ça, c'est ce qu'on dit que si on dit une chienne est en chaleur, c'est à ce temps-là que quand elle rencontre un autre chien, elle peut tomber enceinte. C'est pourquoi les jeunes, c'est le temps, c'est le moment. Les moments de leur vie, à un certain âge, ça sera difficile de changer ou bien de donner leur vie à Jésus-Christ. À moins qu'il y ait une crise, ils ont perdu leurs enfants, beaucoup de choses. Et puis, personne ne m'a pas aimé plus, mais toi tu m'as aimé et tu m'as choisi. Regarde à cette écriture, il a dit. Il dit, tu étais jeté sur la face des champs. Les filles qui ont été choisies par des différents garçons Alors bébé, d'un BMW à Mercedes, Mercedes à Toyota, Hyundai. Ils ne vont même pas te regarder. Le jour, on les rejette et puis quand ils sont dehors en train de pleurer. C'est ce moment-là. Je vois beaucoup de beaux bergers ici qui vont se lever pour faire ce travail de l'Éternel. Ça sera très mauvais, joli. Donc, prions ensemble. Nous sommes en train de prier de lundi jusqu'au vendredi. Nous sommes en train de jeûner et prier. Amen. Et nous sommes en train de dire, Seigneur, sauve quelqu'un. Et pas seulement pour sauver un dimanche, mais Seigneur, sauve pour l'éternité. Tu m'as sauvé et il t'a sauvé. Qu'en est-il des autres? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux dépendre de moi. Tourne à ton voisin et dis à ton voisin, voisin, il semble que Dieu est en train de te... dis à quelqu'un qu'il semble que Dieu a besoin de toi. On va finir avec notre écriture de Ésaïe 50. On avait commencé avec Ésaïe 50. Verset 2. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Et il n'y a eu personne qui répondit. Cette écriture-là ne peut pas être appliquée à nous parce que nous, Dieu appelle maintenant et quelle est notre réponse? Tu peux dépendre de moi. Tu peux dépendre de moi. Tu peux dépendre de moi. Restez debout tout le monde. Est-ce que vous avez chaud? C'est l'onction que vous sentez, ce n'est pas la chaleur. Quand je vous demande si vous avez chaud, vous dites que nous sentons l'onction. C'est l'huile dans l'onction. Levez vos mains. Donne-toi entière à l'Éternel comme un militaire qui est en train de signer son nom pour dire que Seigneur, je suis en train de m'inscrire maintenant. Père, merci de nous avoir appelés. Merci. Merci. Nous t'aimons. Nous élevons nos mains et nous nous donnons. Seigneur, nous ne sommes pas trop grands d'être impliqués dans ta parole. Nous ne sommes pas trop grands pour donner seulement de l'argent, mais nous nous donnons aussi, Seigneur. Seigneur, merci, prends nos vies, bénis-nous puissamment. Nous te rendons grâce pour cette grande bénédiction, au nom de Jésus. Que chaque main qui est levée soit oint. Au nom de Jésus-Christ, utilise chaque main qui est là aujourd'hui. Oint chacun ici pour devenir des prédicateurs, des persuadeurs, les gens qui font rassemblent les âmes. Merci d'avoir oint cette église pour faire ton travail. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tout le monde dit amen. Vous avez votre huile. Vous avez l'huile d'onction? Zoé, nous avons l'huile ou pas? Pas, non. Prenez l'huile. Mettez un peu de l'huile dans votre main. Vous serez oint aujourd'hui. il faut prendre un peu de l'huile en main. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Avez-vous de l'huile? Qui n'a pas de l'huile? Qui n'a pas d'huile? Levez vos mains comme ça. Père, à travers cette onction, qu'il y ait un changement. Et la puissance dans chaque vie. Puissance pour prêcher. Puissance pour servir. Et la puissance pour prospérer. Vous servirez l'Éternel. Et il bénira. Mettez de l'huile sur votre tête. Seigneur, merci d'avoir oint tes enfants. Ils ne seront pas secs et stériles. Ils seront des gens pleins de l'huile avec de la puissance pour ton travail. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce et de louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés. Tu es ici, tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur, mais tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi pour donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un t'avait invité. Lève ta main droite maintenant. J'aimerais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main droite. Que Dieu te bénisse. Pasteur, j'aimerais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. N'importe quel problème que tu te trouves, dans laquelle tu te trouves. Si tu as élevé ta main, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, lève ta main et viens vers moi. Quitte là où tu es et viens vers moi. J'aimerais prier pour toi. Venez, venez tous. D'accord, prions. Fais cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Dis, s'il te plaît, lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je donne ma vie à toi. Je donne mon cœur à toi. Aujourd'hui, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Satan, au nom de Jésus, je te lis. Je te demande de sortir de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis lavé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, amen.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.